Chapitre 69. Nicolas avait hésité à conduire Audra aux urgences pour un contrôle, mais devant son refus catégorique, il avait abdiqué à une seule condition, qu'elle reste sous sa surveillance jusqu'au matin. Il fallait vérifier qu'elle ne serait pas prise de nausées ou de vomissements durant son sommeil. Elle ne tenait plus debout et eut du mal à ouvrir la porte de son appartement. Elle eut à peine le temps de dire à Nicolas de faire comme chez lui, qu'elle s'endormit dès l'instant où elle s'allongea, encore habillée, sur son lit. Il était plus de 3 heures. Le capitaine de police avait prévenu Charcot de la situation et qu'il ne rentrerait pas cette nuit. Il tira un pouf contre le mur et regarda Audra dormir, toute recroquevillée, tel un animal fragile. Leur opération nocturne aurait pu finir de manière beaucoup plus dramatique. Nicolas avait foiré. Serait-il un jour capable de protéger quelqu'un, d'éviter que ses actions partent en vrille? Il était comme Sisyphe poussant son rocher, condamné à une forme d'échec perpétuel. Le sommeil vint le cueillir lui aussi. Dans cet état de demi-veille où il se sentait partir et revenir, les images hypnagogiques affluèrent. Des visages fendus par des scies circulaires, des chiens avec une pelleteuse en guise de gueule, des fœtus à plusieurs têtes et aux dents d'acier. Il sursautait, le front trempé, tentait de rester éveillé et sombrait encore. À un moment, tout devint noir. Lorsqu'il rouvrit les yeux, son menton s'écrasait contre son torse et une douleur aiguë lui paralysait la nuque. 6h40. L'aube rangée des lampadaires pointait par la fenêtre et l'on pouvait percevoir déjà les crissements lointains du RER. La France de ceux qui se lèvent tôt reprenait vie. Nicolas se leva et s'étira en grimaçant avec la sensation d'être encore plus claqué que la veille. Audra dormait d'une respiration lente et apaisée. Il se rendit à la cuisine en quête de son café fort matinal. Mais il ne trouva rien d'autre que du thé noir et une bouilloire. La journée commençait mal. Il salivait déjà à l'idée d'une cigarette alors qu'il était encore imprégné de la fichue odeur du tabac de la nuit. Après l'enquête et les séances chez le psy, promis, il se débarrasserait de ses saletés. Mais un pas après l'autre. « Va pour le thé !» En attendant que l'eau bouille, il observa par la fenêtre. Vu à gerber sur les rails, les câbles, et il devinait plus loin les barres d'immeubles qui bouchaient l'horizon. C'était ça qu'il supportait le moins dans les clapiers de banlieue, cet étouffement permanent, ce manque d'oxygène et cette lumière grise qui paraissait tout droit sortie d'un pot d'échappement. Les plantes et les cônes d'encens semés partout n'étaient que du maquillage. Il se dirigea vers le salon attenant à la cuisine. La jeune femme avait décoré du mieux qu'elle avait pu. Des photos de la Polynésie ouvraient les perspectives et semblaient étirer les murs. Une bibliothèque en kit se dressait du sol au plafond. Des statuettes de juments au galop encombraient un dessus de meubles, histoire de donner une sensation de grandeur, de mouvement. Mais tout cela revenait à mettre une couche de peinture sur des murs dégueulasses. Un ronflement de ventilateur provenait d'une armoire sous le téléviseur. Nicolas entr'ouvrit la porte et découvrit une grosse unité centrale d'ordinateur sans écran, sans clavier, qui dégageait une chaleur intense. Il referma. Pourquoi laisser un ordinateur allumé et planqué dans un meuble? Il se dirigea vers un coin bureau avec un second ordinateur, portable celui-là. Il aperçut l'enveloppe de la salpêtrière entr'ouverte à proximité du clavier et sa gorge se serra. Il possédait la même. Il la considéra sans y toucher comme s'il s'agissait d'un territoire sacré. Elle contenait sans doute les réponses qu'il cherchait, les secrets d'Audra, ses douleurs, ses traumatismes les plus intimes, toute la matière noire qu'il avait construite jusqu'à aujourd'hui. Quel mot avait-elle choisi pour décrire l'horreur de cette nuit de juillet 2016? De quoi se souvenait-elle? qu'avait-elle oublié? Dans son dos, la brouillard émit un bienheureux sifflement. Malgré son envie brûlante, Nicolas n'allait pas toucher à ce courrier parce que, en voler les mots, c'était violer une tombe. Il souleva le cadre posé à gauche de l'écran. Il contenait une photo d'elle et de Roland. Il devait avoir une vingtaine d'années et posé devant une faculté. La chevelure rousse de Casulois brillait dans le soleil, attirant sur lui toute la lumière. Audrac, quant à elle, arborait une longue cascade de cheveux qui lui tombait jusqu'au coude. Le cliché était bosselé dans son coin inférieur droit. Nicolas devina la forme de lettres de l'alphabet. Des mots étaient écrits à l'arrière de la photo. Il pencha le cadre et fit glisser le rectangle de papier glacé entre son support et la plaque de verre jusqu'à faire apparaître l'inscription « Audra et Nicolas, mai 2003, la fac ». C'est quoi encore ce délire ? Bélanger ne comprenait pas. Il avait Roland Casulois sous les yeux, le même Roland installé à Tahiti, celui-là même dont le visage s'affichait sur le profil Facebook auquel le flic était abonné sous une fausse identité. Alors pourquoi était-il écrit Nicolas, le prénom de celui mort sur la promenade des Anglais? Un terrible doute l'envahit. Il sortit son carnet de sa poche et en arracha une page sur laquelle il nota « Nicolas Soulard ». Il réfléchit et après quelques secondes, déplaça chaque lettre jusqu'à reconstituer une autre identité. Roland Casulois. Roland Casulois et Nicolas Soulard n'étaient qu'une seule et même personne, un unique petit ami. Bélanger n'en revenait pas. Mais si Roland était Nicolas, qui était celui retrouvé mort en juillet 2016, identifié par son empreinte génétique comme étant le véritable Nicolas Soulard. Soudain, le portable d'Audra sonna dans la pièce. Nicolas se retourna dans un sursaut, mais il était trop tard. Audra se tenait dans l'encadrement de la porte entre le couloir et le salon. Elle l'observait sans bouger, les lèvres pincées et exprimant des reproches muets. Depuis combien de temps était-elle là? Tu sais quoi? Un ancien collègue de Nice m'a appelé lundi matin pour me signaler qu'un gars des stupes s'était rencardé sur moi. Il avait posé des tas de questions sur le soir de l'attentat. J'ai gardé mes contacts dans le sud, qu'est-ce que tu crois? Nicolas ne savait pas quoi dire. Il était piégé comme un bleu. Elle s'approcha, jeta un œil sur la feuille du carnet. Ses yeux ressemblaient à deux petites soucoupes et dans l'intimité du petit matin, Nicolas remarqua à quel point ses traits rappelaient ceux des nomades, des grandes plaines nordiques. « J'ai capté à la seconde, quand cette étrange demande d'ami est arrivée sur le compte de Roland. C'est moi qui lis ses messages. Un type inconnu au bataillon qui prétendait avoir connu Roland à la fac de droit » alors que Roland a fait la fac de sciences. Angèle Benlassorik, l'anagramme de Nicolas Bélanger. J'ai alors compris que tu nous espionnais. Bélanger s'enfonçait encore. Le comble, lui, n'avait pas su détecter l'anagramme entre les identités de Roland et Nicolas. Elle prit le cadre et remit la photo en place. Le téléphone continuait à sonner, mêlant sa musique polynésienne au crissement de l'eau bouillante. « C'est de bonne guerre, » fit-elle en reposant le cadre. « Quand quelqu'un est blessé en face de toi, tu cherches toujours à connaître les causes de sa blessure. On est des enquêteurs, des déterreurs d'histoire. C'est dans notre ADN de flic, on n'y peut rien. Alors je t'ai ouvert les portes de la page Facebook, je t'ai laissé plonger dans notre intimité à Roland et moi. Tu croyais être le seul. » Ses yeux prenaient la lumière comme un tableau impressionniste. Mais moi aussi, j'ai plongé dans la tienne. Je suis au courant pour toi, Camille. Nicolas encaissa. Il ressentit de la colère qui fut vite balayée. Il ne pouvait pas lui en vouloir de savoir, encore moins de ne lui avoir rien dit. Après tout, ils avaient joué au même jeu tous les deux, et Nicolas avait perdu la partie. « Je suis désolé pour ce qui t'est arrivé, » poursuivit Audra. « Sincèrement désolé. Tu sais, un proverbe amérindien dit qu'il ne faut jamais juger un autre avant d'avoir chaussé ses mocassins pendant au moins 3 lunes. Je sais que tu m'as jugé en surface. Je sais que tu me prends pour ce que je ne suis pas. Alors, je vais te montrer quelque chose. Je voulais t'expliquer dimanche, j'ai attendu au port Van Gogh. Mais tu n'es pas venu. J'ai voulu t'accompagner à la pouponnière, tu n'as pas voulu de moi. Mais maintenant, toi aussi, tu as le droit de connaître la vérité. » Audra alla chercher son portable, elle appuya son pouce sur l'écran à l'endroit où Roland s'affichait. Ses yeux brillaient d'une lumière intérieure. « Ce téléphone sonne tous les jours à 7 heures précises, et il ne cessera pas de sonner tant que je n'aurai pas raccroché ou décroché. Jamais, jamais il n'oublie. Il n'y a pas une journée sans que cette sonnerie ne retentisse, qu'on soit un jour férié ou qu'une bombe explose quelque part. C'est sa voix qui me réveille le matin, sa voix pleine de couleurs alors que je suis enfermé dans cet appartement. Toujours de bonne humeur, toujours bien intentionné. Sa vraie voix, Nicolas. Comment je pourrais me passer de l'entendre ?» Elle appuya sur « Raccrocher », puis afficha le profil de Roland sur l'écran de son ordinateur. « Comment vivre sans ces messages, sans les souvenirs de notre bonheur qu'il poste, sans ces photos et vidéos de nous ?»« Je ne comprends pas. » Elle désigna la lettre. « Ça fait plus d'un an que je communique avec un mort. »